On s'en rend pas nécessairement compte tous les jours, mais les mots qu'on utilise forment nos imaginaires. Et en fait, quand on n'a pas les mots, ben on ne peut pas former les imaginaires. Et en fait, c'est en partant de ce principe-là que mon invité du jour, Camille Aumont-Carnel, qui a un compte Instagram qui s'appelle Je m'emballe Clito, qui est déjà venu plusieurs fois sur ce podcast, a créé son dernier livre qui s'appelle Les mots du cul, un manifeste joyeux des sexualités. Parce qu'en réalité, elle s'est dit, mais finalement, il y a plein de situations du quotidien, aujourd'hui. En particulier, il y a plein de situations du quotidien des femmes dont on ne parle pas ou dont on n'a pas les mots pour les exprimer. Et donc, elle s'est appliquée à créer des mots. Et vous allez voir, ça peut sembler peut-être comme ça pas très important, alors qu'en fait, c'est essentiel à réfléchir au concept même de notre sexualité. Je vous laisse écouter l'épisode. Allez, Vlan, c'est parti. Bonjour à toutes, bonjour à tous, bonjour Camille.
Ouais, salut. Les gens, ils ont pas le off. Bonjour Greg.
Ça va?
Ça va et toi?
Eh ben écoute, ça va pas mal. On va parler de cul pour changer.
Ouais, super, on adore. De nos culs, des culs de qui?
Ah bah ça c'est la bonne question.
Non, on va parler de cul en général.
On va parler de vocabulaire.
Ouais, on va parler de lexique, on va parler d'expression.
On va parler d'expression. Pourquoi déjà, pourquoi je m'emballe Clito? Parce que en fait, ça part de là finalement, ce bouquin.
Complètement. Pourquoi je m'emballe Clito? Je m'emballe Clito, c'est il y a 5 ans. Et je m'emballe Clito parce que j'en avais marre de je m'emballe les couilles. J'en avais marre de je m'emballe les couilles. J'en avais marre de qu'on dise de moi que j'étais une personne qui avait des grosses couilles. J'en avais marre qu'on dise de moi que j'étais un bonhomme. Et que le seul moment où on parlait potentiellement de ce que j'avais entre les jambes, c'était pour dire que j'avais de la chance. C'est la seule expression française qu'on dit « t'as de la chatte ». Ouais. Et je m'emballe Clito arrive à un moment donné où je me pose beaucoup de questions sur la langue, sur la linguistique, sur ce qu'elle veut dire de la société, ce qu'elle porte, avec un constat assez, moi, je trouve violent, c'est est-ce que finalement une langue qui ne prend pas en considération la moitié de sa planète, c'est pas une société qui ne prend pas non plus en considération la moitié de sa planète? Et puis on était en plein dans le débat sur la féminisation des métiers qui avait l'air de poser problème en France. Et j'arrive avec je m'emballe Clito parce que ça faisait 2 semaines que je me réappropriais toutes les expressions françaises de mon quotidien. Pour les genrer et les sexuer à ma façon et de façon à ce que ça me corresponde. Et le compte Insta arrive 2 semaines après avec une histoire qu'on connaît tous et toutes de mes 4 potes qui racontent n'importe quoi pour parler de sexe. Mais ça vient d'abord d'une volonté de se dire, alors dans une société qui ne me calcule pas et qui ne me laisse pas de place, je prends ma place.
Qu'est-ce que tu penses de l'écriture inclusive du coup? Parce que Macron, il n'y a pas si longtemps, a dit... Voilà, dans la langue française, il n'y a pas besoin d'écriture inclusive puisque le masculin l'emporte et que le masculin fait loi.
C'est bien, il n'y a même pas eu besoin de l'accompagner sur cette dinguerie. Il l'a sorti tout seul. C'est problématique que le masculin fasse loi et que le masculin soit considéré comme neutre. C'est très très problématique dans une société où moi j'estime que le sexisme est presque une matière à l'école et dans une société où à 5 ans on nous dit le masculin l'emporte sur le féminin. En fait, ça veut dire quoi? Et ça met quoi dans la tête des petites filles et des petits garçons de se dire ça finalement? Ça veut dire que finalement on a le droit de tout nous faire parce qu'en fait on est inférieur et que les mecs ont le droit de tout faire parce qu'ils l'emportent sur le féminin. Enfin, en fait, la symbolique quand même de cette phrase grammaticale inscrite dans les programmes est quand même hyper problématique. Moi j'utilise l'écriture inclusive. Et j'utilise aussi le langage inclusif. Et en fait, on axe beaucoup sur l'écriture inclusive parce que c'est un sujet clivant. On axe très peu sur le langage inclusif que je trouve encore plus passionnant parce qu'en fait, il permet de ne pas laisser d'espace à ces arguments de « oui, mais du coup, on ne peut pas dire travailleuse.s ». Non, mais on peut dire « les personnes qui travaillent ». En fait, la langue française est assez riche pour qu'on puisse trouver des tournures de phrases qui soient inclusives et qui ne soient pas genrées tout en restant français. Donc moi, j'utilise l'écriture inclusive comme revendication et parce que déjà, ça m'amuse et parce que je trouve ça aussi hyper intéressant. Et il y a un peu un moment donné où je me dis, en fait, ça ne me coûte rien. Alors que ça veut dire beaucoup pour tout un tas de personnes qui ne se sentent pas identifiées, reconnues dans la façon dont on a l'habitude d'écrire. Moi, ça ne me coûte pas. Je suis du côté des privilégiés. Donc, il y a un peu un côté, mais ça vous troue le cul à ce point-là. Enfin, pardon, hein, mais en fait, si ça permet à d'autres personnes de se sentir respectées, quand on reprend les devises de la... Enfin, tu vois, quand, ne serait-ce qu'on prend les devises de la République, en fait, ça s'inscrit quand même dans une démarche et dans une intention qui est quand même très marquée. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait qu'on peut avoir l'occasion d'inclure tout le monde et qu'en fait, on prend le parti pris quand même de rendre ça un binaire et excluant. Enfin, moi, vraiment, l'argumentaire derrière ça, je ne l'ai pas.
L'argumentaire que moi, j'ai entendu en particulier, c'est que c'est illisible. C'est-à-dire que tu ne peux pas imaginer un roman écrit en écriture inclusive parce que ça le rendrait difficile à lire.
Alors moi, j'ai écrit... C'est mon troisième livre. Je suis en train d'écrire les deux prochains. Ils sont tous en écriture inclusive. Il n'y a pas une seule personne qui m'a dit « Oh là là, franchement, c'est illisible. Ça n'existe pas. » En fait...
Moi, mon éditeur me l'a dit parce que je voulais le faire en écriture inclusive. Ouais. Mon éditeur m'a dit c'est pas très
lisible. Moi, c'est un non négociable, par exemple, quand je sors des bouquins. Et ça va de Albin Michel en passant par le Robert. Donc, c'est. Je pense qu'il y a. En fait, l'argument qui consiste à dire c'est illisible, c'est un argument de feignant et de feignante. Parce que tout est illisible jusqu'au moment où on nous l'apprend. Et en fait, tant qu'on nous a pas appris que 01.06.96, c'est la façon dont on lit les dates et qu'en fait ça marche pour tout le monde et, c'est quelque... et en fait on a créé les process pour que ça devienne lisible, bah, j'ai l'impression que le sujet il est plutôt là, c'est qu'en fait on manque aujourd'hui d'outils massifs de communication qui expliquent c'est quoi l'écriture inclusive et comment elle se lit. Mais l'argument qui consiste à dire c'est illisible, tout est illisible jusqu'au moment, en fait, avant qu'on nous dise que MME, ça veut dire madame, et que M. ça veut dire monsieur, c'était illisible. Tu le montres à une personne qui n'a pas eu l'info, elle te dit je ne comprends pas.
Bien sûr.
Donc le sujet, c'est pas l'écriture inclusive, c'est à quel point on ne développe pas les outils de communication et d'information et de transmission pour faire de cette écriture inclusive quelque chose d'accessible.
C'est l'habituation finalement.
Comment ?
C'est l'habituation, c'est-à-dire que plus tu vois, plus tu l'intègres naturellement.
Mais surtout, on t'explique comment ça fonctionne. J'entends l'illisibilité pour tout un tas de personnes qui ne comprennent pas comment ça fonctionne, mais une fois qu'on t'explique, et moi c'est, franchement c'est 2 à 3 prises de parole par semaine, donc j'ai eu l'occasion d'avoir un nombre incalculable de personnes, et en fait une fois que tu leur expliques, ils disent ouais c'est bon j'ai compris.
Oui, c'est ça. C'est assez basique, en fait.
Et quand tu leur dis qu'en fait, toi, ça ne te coûte rien, ça ne t'enlève pas de la visibilité, ça ne t'enlève pas du spotlight, mais qu'en fait, ça permet ça te permet d'inclure tout un tas de personnes qui ne sont pas calculées, qui ne sont pas reconnues, bah, en fait, il n'y a pas grand monde qui est contre ça. À part Macron qui dit qu'il est OK que le masculin pense au féminin.
Et pourtant, c'est dans un musée, enfin, c'était pour l'ouverture d'un musée sur
l'écriture
française.
Mais ça s'appelle une dinguerie, hein. Il n'y a pas de sujet.
Donc dans ce livre, ce que tu proposes, c'est de réinventer des... C'est ça, hein, je me trompe pas, ouais, réinventes des expressions finalement.
En fait, il y a 3 parties. Disons qu'il y a une première partie où j'explique des expressions françaises qu'on utilise tous et toutes depuis toujours, qui vont quand même être plutôt catégorisées et plutôt incluses dans le chapitre qui s'appelle « À l'ancienne ». Ensuite, il y a une partie où je propose des alternatives pour des expressions qui sont déjà là et qui sont problématiques. Et il y a un troisième volet où j'invente des expressions pour des réalités qui sont existantes, qui sont déjà très, très ancrées, mais pour lesquelles on ne s'est pas mis d'accord alors qu'il serait intéressant de créer un narratif commun.
Moi, je m'étais arrêté là-dessus, mais tu peux nous parler des expressions qui sont problématiques ? Qu'est-ce qui est problématique ?
Alors, elles sont pour la plupart discriminantes. Elles sont pour la plupart excluantes et elles sont pour la plupart, et notamment quand on parle des femmes et des attributs qui soient génitales ou des attributs physiologiques féminins, oppressants, voire écrasants. Donc par exemple, on va partir dans la thématique des règles. Un truc qu'on a tous et toutes toujours entendu, c'est « je suis indisposée ».
Ouais.
Moi, j'ai vu sur mon cahier de liaison...
Et encore, c'est pas le pire. Hein.
Et encore, c'est pas le pire. Non, j'arrive, crescendo, tranquillou. Être indisposé, qui a l'air d'être la seule phrase... comment dire ?
Acceptable.
Acceptable, ouais. Pour parler des règles, alors qu'on peut juste dire « j'ai mes règles ».
Oui.
Et quand... En fait, qu'est-ce qu'on... Et moi, j'aime toujours dire... En fait, je suis pas indisposé, c'est juste que c'est une société qui a été construite sans considérer mes besoins physiologique qui m'indispose, mais moi je vais très bien, je suis pas indisposée à quoi que ce soit. Et donc là, en plus, être indisposée, c'est faut que la phrase elle continue. Donc en fait, c'est indisposée à ça, à ci, à ça. Alors qu'en fait, ça concerne la moitié de la planète, donc c'est pas vraiment quelque chose qui nous indispose. Par contre, la société qui ne crée pas ce qu'il faut pour qu'on se sente respecté, considéré, que notre douleur soit prise en charge, oui, ça nous indispose. Donc par exemple, être indisposé, c'est problématique. Dire à une personne qui vient d'avoir ses règles, t'es une femme maintenant. C'est hyper problématique. Parce que moi, je fais partie typiquement de ces personnes qui ont... Moi, j'ai mes règles, j'avais 9 ans. Donc, autant te dire qu'à 9 ans, tu me dis que je suis une femme. Je suis là, bah non, en fait. L'autre phrase hyper problématique, c'est... mais non, mais t'inquiète pas, c'est une super nouvelle. Ça veut dire que tout fonctionne. Ah non, tu peux avoir tes règles tous les mois et in fine, ne pas réussir à procréer. Une autre phrase qui est problématique, c'est... avoir une bouche de suceuse.
Oui, là, on est plus sur un truc problématique, effectivement.
Ouais. Mais après, que ça soit problématique de façon symbolique ou de façon directe, ça reste des phrases qui sont problématiques. Dire à quelqu'un, t'as une bouche de suceuse, et qu'en plus de ça, ça soit à la base imaginé comme étant un compliment.
Ah oui, ah ouais, j'avais même pas envisagé comme ça, moi.
Tu vois ? Non, c'est considéré comme un compliment. Ensuite, on va avoir. Qu'est-ce que je vais avoir d'autre ? Dans d'autres. La fameuse expression qui dit mot consent.
Ah oui, mais là, c'est plus problématique parce que là, on approche du viol pour le coup.
En fait, c'est assez. Quand je dis que c'est problématique, c'est à plusieurs niveaux, tu vois. C'est d'un point de vue de ce qu'elle porte, d'un point de vue de ce que ça a induit, d'un point de vue de la façon dont ça a fait sentir les personnes à qui on a dit ces expressions, de la façon dont ça a fait percevoir les personnes qui prononçaient ces expressions. À plein de niveaux différents, c'est problématique. Et dire à une personne qui dit mot consent, ou utiliser cette expression, en fait, ça vient complètement écraser les sujets de zone grise, les sujets de frise face à un trauma, les sujets de sidération, et on part du et en fait, ça laisse une grande place à oui, mais t'as rien dit, t'avais qu'à te défendre, pas dit non. Alors, j'ai pas dit non, mais j'ai pas non plus dit oui en fait. Mmh. Donc, par exemple, les insultes, soit les mères, soit le sexe des femmes, soit les prostituées.
C'est quoi les insultes sur les sexes des femmes ?
Connasse. Être une connasse. Le con, à la base, le con, c'est le sexe des femmes.
Effectivement.
Être une salope, c'est on insulte, on est encore dans le jargon des travailleuses du sexe. Mmh. Être une pute, être un fils de pute. Donc, soit t'es une pute, soit t'es un fils de pute, mais entre les deux, il n'y a pas grand-chose. Donc, on est toujours dans une insulte. J'ai quoi d'autre ? Mais j'en ai des centaines comme ça, juste là je les ai plus en tête, j'aurais dû amener le bouquin pour regarder, mais quel que soit le sujet, le consentement, les rapports sexuels, les rapports pénétratifs, le fait que ça étonne les personnes quand je fais rentrer le mot circlusion, qui est en fait pas l'inverse de la pénétration, mais disons que la circlusion c'est le fait de venir enrober un pénis et du coup de ne pas être dans un rapport où uniquement un pénis peut te pénétrer. Et d'un seul coup, on se dit, en fait, c'est le pénis le vagin qui vient enrober et qui vient se mettre par-dessus le pénis et c'est pas. Ouais. Et en fait, on n'est pas uniquement des personnes avec un conduit qui permet d'accueillir.
Et d'ailleurs, c'est exactement ce qui se passe. Enfin, quand tu t'intéresses à la sexualité et avec des gens qui. Enfin, ils donnent des cours là-dessus, au final, ils te disent, en fait, un vagin, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme des lèvres. Enfin, techniquement, c'est vraiment comme des lèvres. C'est-à-dire qu'en fait, ils mangent plus ou moins. Enfin, mangent, c'est pas le bon terme, mais en tout cas, tu dois y aller mollo-mollo parce qu'en fait, déjà, c'est pas un conduit tout droit.
Ouais.
Est-ce que les gens ne savent, enfin, que les majorités des mecs ne savent pas.
Ne savent pas.
C'est pas un conduit tout droit. Et effectivement, c'est plutôt à la femme d'aller chercher le sexe masculin que l'inverse.
Mais ne serait-ce que pour d'un point de vue angle, posture, en fait, on est mieux placé pour savoir qu'est-ce qui va être le moins douloureux, le plus agréable. Quand on voit que tous les synonymes pour parler de vagin sont décrits comme des conduits ou des espaces ou des phénomènes ou des endroits sombres, humides, dans lesquels en général on n'a pas trop envie d'aller. Donc en fait, on va parler de trous, on va parler de grottes, on va parler. Le trou, ça ramène encore une fois cette zone à un espèce de truc infini qui du coup n'a pas besoin d'être pénétré avec gentillesse et douceur parce qu'en fait, finalement, il n'y a pas de fin.
Ouais.
Dans un trou, on peut gicler. Enfin, tu vois, il y a quand même un jargon compliqué quand on parle du pénis, toutes les associations alimentaires pour parler des pénis sont des aliments qui doivent se manger avec les doigts et dans lesquels, d'un point de vue culturel, notamment occidental, on trempe dans une sauce avant. Donc l'asperge, le hot dog, le poireau. Il y a vraiment un sujet.
C'est moins le cas de la banane.
C'est moins le cas de la banane et encore
mais on
chocolat.
Dit pas trop banane,
si. On parle pas de banane pour parler du pénis. Ouais, tu vois, on parle d'asperge, on parle de poireau, d'avoir un gros poireau.
Ouais.
On parle de hot dog aussi, de la saucisse du hot dog. Donc. C'est tout un tas de sujets que j'essaye d'aborder. Toutes les imaginaires aussi autour des animaux. En fait, on va se retrouver, notamment pour le sexe féminin, avec tout ce qui est faune et flore, et notamment la flore avec c'est un abricot, c'est un petit bonbon, c'est un berlingot, c'est une rose, c'est un bourgeon. comment est-ce que le sujet du bourgeon est venu aussi à un moment donné nous induire en erreur, parce que finalement dans la méconnaissance de cet organe qu'est le clitoris, le fait qu'on en parle comme étant un bourgeon, ça veut dire qu'en fait on rend visible linguistiquement uniquement la partie externe de cet organe, et en fait on oublie complètement les trois quarts qui sont à l'intérieur. Moi j'ai grandi notamment à l'école où en fait on va dans les matières qui sont le SVT et d'autres matières, quand on va parler des sexes génitaux, on va parler du pénis et de la vulve. En fait, on va jamais, ou alors du pénis et du vagin. C'est ces deux-là qu'on compare. Or, scientifiquement, disons, c'est faux. C'est-à-dire que quand on décrit le pénis comme étant un grand organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation, et qu'en fait, il y a un imaginaire autour de la grandeur qui va avec et qui est porté, et ça, des petits. Donc, quand on dit, non, mais toi, t'en as une grosse. Il y a vraiment ce truc de, ça construit ta virilité, ça construit la place aussi que tu as le droit de prendre et que tu peux prendre parce qu'entre les jambes, t'as un énorme truc qui se gorge de sang. En fait, ce qu'on oublie de nous dire, et si on nous avait parlé de clitoris en face, ça aurait été que bah, le clitoris, c'est un organe érectile qui se gorge de sang lors de l'excitation et qui mesure en moyenne entre 9 et 14 cm. In fine, ce que j'essaye de dire, et quand je caricature et que je dis, il y a des clitoris plus grands que des pénis, c'est la même chose. Donc pourquoi est-ce que nous on est resté sur un champ lexical et sur un imaginaire de choses sucrées, douces, qui plus est doit être ouvert en deux avec un noyau à l'intérieur pour le manger, quand on parle de l'abricot, quand on parle, j'ai plus l'autre exemple, il y a un autre fruit aussi qui avait la figue. Je crois même qu'à un moment donné il y a la date.
Ouais.
Donc qu'est-ce qui fait qu'on a ramené ça à quelque chose, oui ok la gourmandise et tout ça, mais jamais à la grandeur. Et donc moi je me suis construit avec cet imaginaire là et donc je ne suis pas une personne, je suis une chose qu'on goûte, et en face de moi j'avais le grand pénis, tu vois, qui en plus était représenté tout le temps quand t'es petit, c'est vraiment le truc de dessiner des tubs sur les portes des toilettes et jamais de dessiner des clitoris, tu vois. Donc tout ça, ça fait partie moi des choses que j'essaie de traiter, les sujets sur lesquels j'essaie de me pencher, pas pour dire oh là là putain c'est trop la merde, mais plutôt pour dire voilà d'où ça vient et aussi voilà d'où on parle. Et donc que ça soit chanteur, chanteuse, activiste, militant, militante, écrivain, écrivaine, en fait on peut pas décorréler nos propos. Et quand on parle de déconstruire, oui mais cette personne n'est pas déconstruite, non mais elle s'inscrit dans une génération qui vient de là en fait, et on peut pas dissocier ce propos là, tu vois, je trouve que c'est compliqué moi, mais je refuse le masculin l'emporte sur le féminin. D'ailleurs moi ce cours de j'étais en CP et je me souviens très bien que j'étais avec ma prof et qu'elle nous apprenait à conjuguer, et qu'en fait je conjugue le truc mal, tu vois, parce que c'est un exemple où il y a trois femmes et un mec et je conjugue, on dit, je sais plus comment je conjugue le truc, et c'est à ce moment là qu'elle me dit ah c'est super intéressant. Voilà, donc là, on va prendre l'exemple de Camille, parce que typiquement, là, on peut avoir l'impression qu'il y a trois femmes et que du coup, il faudrait dire nanana, mais comme en français, le masculin l'emporte sur le féminin, mais moi, ça m'a scié. Déjà à cet âge-là, tu vois, ça m'a scié. J'étais là, mais en fait, tu viens de m'expliquer, enfin, pardon, à quelle heure, en fait.
Ouais. Donc, un homme est plus fort que trois femmes. En gros, c'est ce que ça veut dire.
En fait, c'est ça. Mais et le l'emporte sur le féminin.
Ouais.
L'emporte sur, c'est, tu vois, encore une fois, jargon du poids, de l'écrasement face à une personne qui est considérée comme du coup plus faible, une petite chose. Et ça, je refuse. Et moi, j'ai un vrai sujet d'occupation de l'espace, qui soit médiatique, qui soit public, qui soit avec tout un tas de stratégies stylistiques notamment, tu vois. Mais parce que je refuse d'incarner cette petite chose.
Je comprends. Et en même temps, je me dis, quand je t'écoute, en particulier sur les sexes, je me dis, c'est sans doute lié à la culture humaine qui est vachement basée sur le regard. Et donc, en fait, tu décris ce que tu vois. Et le sexe féminin, on voit la partie extérieure, ce dont tu parles, c'est-à-dire la partie qui se gorge de sang, etc., etc. Tu peux le voir parce qu'en fait, les lèvres se gonflent. Mais en réalité, d'ailleurs, ça, pour les mecs qui nous écoutent, c'est un bon indicateur pour savoir si la fille...
Merci Greg. Are you ready or not?
Non, mais c'est vrai, tu vois, parce qu'en fait, si les lèvres ne se gonflent pas, en vrai...
Flemme.
Et d'ailleurs, dans le porno, tu le vois assez souvent, les lèvres, elles ne sont pas gonflées.
Ouais.
Donc les filles se font pénétrer, mais en fait les lèvres elles sont pas gonflées.
Elles sont pas excitées en fait.
Elles sont pas du tout excitées, ça se voit. Petit indice.
Tu vas avoir genre littéralement des milliers de mecs qui vont être en mode. Je peux juste vérifier si tes lèvres sont gorgées de...
Non, ouais. Mais bah, en fait, ouais, c'est pas que la mouille, tu vois. C'est,
absolument.
C'est ça,
et puis en plus, la mouille n'est tellement pas un indicateur, pardon, non. Mais le nombre de fois où tu peux te retrouver hyper excité et tu mouilles pas, et d'un seul coup t'es en train d'acheter des petits pois carottes et tu sais pas pourquoi tu. Enfin, tu vois, c'est pas l'indicateur.
Non, alors que pour les mecs, c'est l'indicateur.
L'érection, ouais.
Parce que non, la
mouille.
Bah ouais, c'est l'indicateur.
Et tu peux avoir une érection
dans les
sans pornos, être excité.
C'est l'indicateur. Ah, oui, tu peux avoir déjà, une érection. Mais t'es trempé, machin. Enfin, tu
ah
vois.
Ouais. Ça aussi, il faut déconstruire. Tout l'univers pornographique qui est venu à un moment donné beaucoup laisser Enfin, en fait, c'est venu à un moment donné nous dire voici comment on ken. Alors que tellement pas. Tant d'un point de vue de la temporalité que d'un point de vue de la pratique. Et ça, je trouve ça ultra problématique. Et moi qui traite avec des dizaines et des dizaines d'ados toutes les semaines, il y a vraiment ce truc de bon, ok, j'ai compris comment il faut ken. D'abord, on s'embrasse, ensuite, on se touche vite fait un peu. Pénétration, éjaculation, dodo.
Fellation quand même, entre les
fellation
deux.
Quand même, on commence par ça. Pénétration. Éjaculation, dodo, ciao, et ça se finit comme ça, tu vois.
Ouais.
Et en fait, ce qu'il faut toujours resituer, c'est un film pornographique avec des acteurs pornographiques. Il y a du montage, il y a des pauses, il y a des séquences. Enfin, le truc est pensé pour. Et on a quand même vachement forcé le pas à l'intimité et au réalisme, finalement, tu vois, avec... Jamais on nous explique que, bah, en fait, potentiellement, un pénis à ce point-là gros, ça peut parfois plus faire mal qu'autre chose.
Bien sûr.
Jamais on nous explique que la zone G, elle est à moins de 5 cm à l'entrée du vagin. Donc, franchement, easy, tranquille.
Tu peux y aller avec les doigts. Hein.
Tu peux y aller avec les wads. Et vraiment, je te jure, il n'y a pas besoin d'une top de 22 cm. Non. Je te jure, ça va le faire. Et en fait, tout ça, c'est des trucs, c'est des injonctions qui sont hyper puissantes parce qu'en fait, elles sont complètes dans le sens où il y a de l'image, du son et de la diversité. Et c'est gratuit. Donc, c'est dur de venir. Déconstruire
tout ça.
Ouais.
Et sur les termes, donc toi tu as inventé de la terminologie. Tu vois, le terme que tu as utilisé tout à l'heure, je ne le connaissais pas d'ailleurs. Et ce n'est pas un terme que tu as inventé pour le coup.
Lequel ?
Celui du fait que c'est le vagin qui encercle le.
Ah, la circlusion. Non, je n'ai pas circlusion. Du tout inventé.
Tu vois, c'est pas toi qui l'as inventé, ouais, je ne le connaissais pas. C'est quoi les termes que tu as inventés ? Enfin, des exemples.
Ouais, des exemples, il y en a beaucoup dans la... Déjà, il faut préciser que les deux thématiques dans lesquelles j'ai le plus inventé de mots, parce qu'il y avait un manque et une lacune, c'était le sujet des règles et le sujet du plaisir et des orgasmes.
Okay.
Ce que ça veut dire, c'est... Ça nous a arrangé quand même jusque-là que les femmes n'aient pas les mots pour pouvoir en parler. Parce que finalement, ça maintient une certaine forme de tabou. Parce qu'en fait, on n'a pas les armes linguistiques pour en parler, pour communiquer. Donc, c'est les deux sujets. Et c'est marrant parce que ça fait le lien avec moi, ce que je notifie et ce qu'on me demande souvent depuis les 4 dernières années. C'est quoi les sujets où vraiment on n'arrive pas à battre les tabous? Et souvent, je dis la masturbation, le plaisir et les règles. Et on se retrouve avec, en parallèle, des mots qui n'existent pas. En fait, il y a t'as joui, kiffé, mouillé. Et tu vois, et prendre son pied. Genre, ouais. Littéralement, c'est tout. Et dans les règles, il y a j'ai mes règles. Et ouais. Ragnagna, et les Anglais débarquent,
oui,
et tout un tas d'analogies horribles. Alors que moi, quand je parle de télémasturbation, quand je parle d'euphoria sexus, quand je parle de faire une Pollock, quand je parle de culot menstruel, quand je parle de. De quoi je parle d'autre? La masturbation simultanée, quand je parle...
Il va falloir que tu nous expliques tous ces mots, hein, parce qu'on ne sait pas de quoi tu parles. Tu sais, Camille, qu'on ne sait pas de quoi tu parles.
En tout cas, moi,
je ne sais pas de quoi tu parles. Je suis là, genre...
Je vais t'expliquer. Alors, le culot menstruel, c'est, dans mes rêves les plus fous, un prix qu'on remettrait et une attention, du moins, toute particulière, qu'on donnerait à toutes ces personnes qui, en période de règles, décident quand même de porter des vêtements clairs. Le culot menstruel, c'est ça. Faire une Pollock, c'est le fait de, par exemple, pendant une journée, je sais pas, t'as pas eu le temps ou t'en avais pas sur toi et en fait t'as gardé ton tampon genre particulièrement longtemps jusqu'à la limite de la fuite. Et en fait, quand t'arrives aux toilettes et que tu l'enlèves, ça genre éclabousse partout, tu vois, sur le mur, sur. Ça fait des espèces de traînées qui sont assez proches de celles que pouvait faire Pollock. Ça s'appelle faire une Pollock. Paix à son âme, le pauvre il a rien demandé, mais bon. Le check du fluide, c'est grand, t'es là tranquillement, tu marches dans la rue et qu'en fait. C'est bizarre parce que ça correspond pas au moment où t'es censé avoir tes règles, mais t'as quand même envie de checker pour savoir si genre c'est des règles ou si genre c'est des pertes ou genre, et tu finis genre à l'arrache entre deux voitures en train de checker ce que c'est, le check de fluide. La masturbation simultanée, c'est le fait d'être avec une ou plusieurs partenaires et le fait de se dire bah en fait c'est pas forcément je te masturbe et tu me masturbes, mais c'est on se masturbe chacun et chacune l'un à côté de l'autre
ou à distance
aussi, et mais c'est surtout pour parce que ça me fait kiffer, et deux, comme ça, tu vois comment je fais, c'est aussi une très bonne façon d'apprendre, etc., etc. La télémasturbation, c'est le fait d'alterner entre des Google Meet, des Zoom et des séances de masturbation pendant toute une journée. Ça s'est démocratisé notamment pour le confinement, et c'est une pratique qui permet de pouvoir assumer 15 Zooms dans la journée sans avoir envie de monter les gens en l'air.
Tu sais que j'ai découvert que... Alors, je connais plus exactement le chiffre,
ouais.
Mais il y a énormément de gens qui se masturbent avant d'aller à une date.
Oh waouh, pourquoi ?
Pour se détendre.
Pour se détendre. Ah oui, pour être moins stressé.
Ouais.
Mais c'est un truc de ouf. Moi, j'avais cette connaissance-là, mais plus des mecs qui me disaient « je me branle avant d'aller en date, si je sais que je vais ken, comme ça, en fait, ça me permet de pas finir trop vite. »
Ah.
Mais du côté meuf, alors moi je me masturbe avant chaque rendez-vous et moment de vie très important ou très stressant. Ouais.
Parce que ça te détend.
Ah, parce que ça me détend. Parce que j'ai une capacité à mettre les choses en perspective et être sur un nuage de en fait rien de matin qui est quand même assez intéressant. Ça me permet d'arriver souvent j'arrive en retard du coup. Et quand c'est des rendez-vous un peu importants ou...
T'étais à l'heure aujourd'hui.
J'étais à l'heure. Parce que j'avais pas de stress, tu vois. Les deux, tu vois, ça va. Mais quand j'ai des rendez-vous, je sais pas, ou potentiellement, je peux avoir l'impression que soit on va essayer de me niquer, soit il y a des enjeux de pouvoir, de domination, de négo qui sont un peu intenses. Ça te permet très vite de dire, en fait, je suis désolée, je suis en retard, je suis en train de me toucher. Ce qui déstabilise complètement la personne en face. Et tu récupères un petit peu, tu vois, d'espace. Et puis le glow, quoi. Moi, je marche pas de la même façon, je suis pas la même personne, ma peau ne ressemble pas à la même chose quand je viens de me masturber que quand c'est pas le cas. Donc, je l'utilise cet outil comme outil d'empouvoirment.
Et d'ailleurs, l'expression que tu viens d'utiliser, je vais me faire niquer. Ça aussi, c'est problématique en réalité. C'est que...
Se faire niquer, ça veut dire se faire avoir. Mais pourquoi est-ce qu'on est obligé de ramener ça à un rapport sexuel? Très bonne question. Se faire niquer, c'est problématique. Et après, il y a Ken. Qui est le verlan de niquer, se faire ken.
En fait, c'est ce qui est intéressant. Moi, il y a une fille qui m'avait déjà dit ça, parce que je vais utiliser l'expression. Elle me dit, non, c'est pas toi qui me ken, tu vois. Enfin, je vais pas utiliser ce mot-là en l'occurrence, mais on le fait ensemble, en fait. C'est pas... Et en fait, ça m'est sorti parce que, tout simplement, c'est l'expression courante, tu vois, tout simplement. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant qu'elle me dise ça, parce que je l'ai sorti sans réfléchir, en fait. Parce que...
Ça sort souvent. Moi, souvent, je vois dans les débriefs entre potes, mais meufs comme mecs, hein, ou personnes non binaires, peu importe. Très vite, il y a... Donc, quand c'est des mecs qui vont parler de rapport hétérosexuel, ils vont dire « Ouais, en fait, je l'ai prise comme si, je l'ai fait ça, je l'ai ken comme ça, comme si, comme souille. » Et en fait, quand c'est des meufs, moi, mes potes, c'est « Alors, il m'a fait ci, il m'a pris comme ça. » Et il y a un côté, quand est-ce que tu fais, toi? En fait, quand est-ce que c'est mutuellement vous faites? Ou alors dans ce cas-là, ok, mais quand est-ce que toi, tu le prends? Et tu vois, introduire la circlusion, ça permet de complètement dissocier la pratique de l'intention. Et donc la levrette ne devient pas, par exemple, la levrette, missionnaire, toutes ces positions-là ne sont pas des positions dans lesquelles l'autre fait et du coup, moi, je reçois, mais c'est des positions dans lesquelles moi, j'enrobe, on va dire.
Ouais.
Et je trouve que c'est hyper intéressant. Ouais, plus que j'accueille et plus que je reçois, donc je suis pas réceptacle, je suis active dans l'enrobage de cette tub.
Et en même temps, je pense qu'il y a des filles qui vont nous écouter, qui vont se dire, et des mecs aussi d'ailleurs, en même temps, de temps en temps, j'imagine que quand t'es une meuf, moi je suis pas une meuf, mais j'imagine que quand t'es une meuf, t'as envie de ça, ouais, de temps en temps, tu vois, il y a pas de...
Oui,
et c'est ok en fait.
Et c'est complètement ok. Par contre, ce qui est pas ok, c'est de te dire qu'il y a que ça que tu peux faire, il y a que ça que tu peux avoir. Et ça passe par la langue, moi j'en suis persuadée. Et tu vois, la collection du bouquin s'appelle Dire c'est agir. Donc c'est d'abord on dit, et le fait de dire ça permet de pouvoir agir, j'y crois de ouf. Parce que quand tu mappes un petit peu quelles sont nos pratiques, comment est-ce qu'on en parle, bah en fait oui, tu te rends compte que les injonctions elles sont hyper présentes, quoi.
De toute façon, le vocabulaire fait les imaginaires.
Ouais.
C'est-à-dire que par exemple, si je prends un truc qui a rien à voir avec le sujet là, mais quand on parle d'environnement, l'environnement, par définition, c'est quelque chose qui t'environne, c'est autour de toi, alors que fondamentalement, tu fais partie de l'environnement. Tu vois, et donc déjà, c'est un problème. C'est comme quand tu dis, parle de la nature. La nature, c'est forcément un truc autour de toi. Alors qu'en fait, tu es la nature. C'est-à-dire que tu es complètement partie intégrante de la nature. Donc en fait, à partir du moment où tu dis, ah là là, c'est pas bien, on abîme la nature. En fait, on n'abîme pas la nature, c'est-à-dire qu'on t'abîme toi. Enfin, dire, par définition, t'en fais partie. Donc, mais
tu es aussi
mais
en
le
danger.
Fait de le mettre à l'extérieur de toi, du coup, tu le mets à distance. Alors qu'en fait, fondamentalement, et c'est le combat des écologistes entre autres, mais de dire c'est pas la nature que t'abîmes ou l'environnement que t'abîmes, ou quand j'ai envie de me connecter à la nature, faut te connecter avec toi-même, c'est la même chose.
Quand
t'as pas le vocabulaire, finalement ça te crée des imaginaires qui sont pas nécessairement les bons.
Et puis surtout, moi je pense que toute la démarche de créer des nouvelles expressions et de proposer des nouvelles expressions, déjà pour remplacer celles qui sont problématiques, mais tout en créant des expressions tout aussi attractives, mais d'un point de vue marketing, d'un point de vue marketing du mot, tu vois. Moi, je suis hyper chaude pour... j'adore ça. Réfléchir au... Non, mais il faut que ça soit sexy, il faut que ça soit applicable, il faut que ça soit intégrable. Ça permet aussi déjà de prendre le pas sur une prochaine révolution sexuel, tu vois, moi ça j'y crois, où d'un seul coup en fait on n'est pas, on n'est jamais dans l'observation, mais on peut aussi se positionner comme étant à l'initiative de pour un futur. Et ça je trouve que c'est intéressant, tu vois, quand il y a la troisième vague de féminisme, donc mai 68, quatrième vague de féminisme, là MeToo, entre les deux il y a 50 ans, je pense qu'on est à peu près tous et toutes d'accord pour se dire que la prochaine révolution on veut pas attendre 50 ans, mais du coup quels sont les outils qu'on met en place dès maintenant pour provoquer ou pour du moins créer un espèce de mouvement d'anticipation qui soit linguistique, militant, enfin peu importe, tu vois, qui n'est pas dans le but de quelconque survie ou de quelconque rattrapage ou mort imminente comme on peut avoir sur le sujet d'écologie, mais qui est dans, dans une démarche de mouvement historique, tu vois, révolutionnaire. Et le deuxième point quand j'invente des mots, c'est que moi j'ai toujours cette image, moi à la base je viens de la restauration.
Oui, bien sûr.
Donc, je fais de la gastronomie. Premier truc qu'on t'apprend quand tu rentres en école de cuisine ou que tu bosses dans un restaurant, c'est gérer un stock. Et quand tu gères un stock, donc tu gères des denrées, des prix, des dates de conservation, et t'as un espèce d'économat. Et en fait, tu gères ce qui rentre, ce qui sort, ce qui va rester parce que ça doit être mariné, tu gères un stock. Et j'ai toujours eu un peu cette lubie et ce rêve et cette projection avec la langue, où en fait, il y avait toute une banque de données de mots et d'expressions, plus ou moins problématiques, des trucs qui vont périmer, des trucs qui. Et en fait, l'enjeu, c'est d'en rajouter. Pour que petit à petit, il y a un espèce de réassort qui se fasse et que celles qui sont problématiques sortent, qu'on les consomme et qu'on les, tu vois, ça ne limite plus de saison.
Ouais,
et que les nouveaux mots, les nouvelles expressions qui sont du moins moins problématiques, moins discriminantes, mais tout aussi attrayantes, prennent de la place. Et quand je crée, je m'en bats plutôt il y a 5 ans, c'est ça. C'est-à-dire que je me dis, et je pense que si je relis mes premières interviews, je disais ça, je dis, franchement, à ce moment-là, j'ai 21 ans, je ne suis pas encore maman, mais le jour où je suis daronne, je vous jure, ça me ferait trop kiffer de me dire que dans la cour de récré, mes gamines ou même les mecs que je pourrais avoir disent « je m'en bats clito dans la plus grande des tranquillités ». Et donc ce rapport à proposer des expressions maintenant pour respecter une certaine temporalité d'installation, d'implantation dans la société, ça m'intéresse là où en fait, et c'est assez novateur parce que la démarche du Robert, c'est quand même les mots existent dans la société, il y a un comité qui se réunit, on choisit les mots, on les fait rentrer au Robert. Donc déontologiquement, c'est la démarche inverse. Mais parce que j'ai un rapport au temps qui est de l'ordre de j'ai pas le temps d'attendre. Enfin, perso, j'ai pas le temps. 5 millions de patriarcat, faut qu'on se bouge le cul. Et je trouve que c'est aussi. Et du coup, ça me permet aussi de proposer une espèce de méthode et de dans tout un tas d'autres secteurs que d'autres puissent se dire ah oui, ok, d'accord. Donc on peut tant observer que nommer, que classifier, rectifier et même proposer.
Et comment réagissent les médias à tes propositions et ta communauté? C'est deux choses différentes parce qu'en fait, j'imagine
C'est deux choses différentes,
que
mais
les
pourtant,
médias réagissent pas de la même manière.
C'est dithyrambique. J'ai zéro personne qui trouve que c'est ni puéril, ni con, ni inutile.
Trop militant, non? T'as pas de retour non. Trop militant?
Bah, en fait, c'est de mes trois livres, c'est celui qui est considéré comme le moins militant.
D'accord.
Tu vois, il y a une proposition linguistique, donc ça passe, c'est d'abord considéré comme un truc très littéraire, limite drôle. C'est il y a une entrée, tu vois, c'est un truc que tu peux limite lire comme un éphéméride. Non, c'est considéré déjà comme une proposition drôle, abordable dans le sens où c'est court. Et ensuite, ce qui arrive très vite, c'est on remarque le fait que en fait, comment s'autoriser au sein d'une institution. Enfin, c'est et moi ça fait vraiment partie de mes enjeux, c'est j'ai envie de pénétrer les institutions et arriver à disrupter les institutions de l'intérieur. Mmh. Bon, ça peut paraître très sexuel ce que je suis en train de raconter, oui. Mais il y a un vrai sujet avec, que ce soit les institutions littéraires, politiques, mode, culture, j'ai un vrai point de... Je vais pas me dire que je ne bosse pas avec vous, que je bosse contre vous, c'est on va bosser ensemble, mais je vais réussir d'une façon ou d'une autre de faire à ma façon à l'intérieur de... Et ça, c'est notifié. C'est-à-dire que les gens, le premier truc qu'ils disent, c'est « Ouah, t'as sorti ça au Robert !» Genre, tant la DA que le propos, que l'autorisation, déontologiquement, ça va à l'inverse de ce que cette maison prône et défend depuis genre des dizaines d'années. C'est-à-dire que, qui sommes-nous? C'est des dizaines et des dizaines d'auteurs et d'autrices qui s'effacent au nom du Robert tous les ans pour écrire des dictionnaires. Ouais. Et moi, j'arrive et j'incarne. Donc déjà, l'incarnation, c'est quelque chose de... À part Alain Ray, mais sinon, l'incarnation, tu vois, c'est un truc hyper... sur des thématiques, et c'est comment est-ce qu'on peut décrire la société dans laquelle on vit à travers des mots, et comment du coup, à travers ces mêmes mots-là, on peut modifier la société dans laquelle on vit.
Et comment, enfin, est-ce que tu as une stratégie pour les intégrer? Comment tu fais? Est-ce que tu utilises l'influence? Est-ce que tu utilises d'autres personnes qui sont dans la sphère féministe,
ouais,
qui te suivent,
ouais?
Est-ce que tu...
Déjà, ça passe par moi.
Ouais, bien sûr, évidemment.
Donc, mais c'est une démarche que j'ai depuis 5 ans, donc c'est changer la façon dont je parle. Intégrer ces expressions, faire en sorte que ça fasse réagir. Donc tu vois, quand je, par exemple, je propose à la place de rien à foutre, je propose en face rien à mouiller. ça fait marrer tout le monde. Sauf qu'in fine, c'est des dizaines de femmes qui me disent, moi maintenant au bureau, je dis j'en ai rien à mouiller. En fait, ça permet et ça légitimise. Et ça, c'est
bizarre parce que j'ai l'impression que c'est plus vulgaire rien à mouiller que
t'as
rien
vu
à foutre.
C'est bizarre. Mais hein. Je m'en bats avec Lito, ça m'a fait le même effet. C'est-à-dire que moi, quand j'ai commencé à dire je m'en bats avec Lito et que j'ai sorti un con, je m'en bats avec Lito, la première question c'est, vous avez pas un peu l'impression que c'est vulgaire?
Ouais.
Bah, je sais pas, frérot, ça fait 120 ans que tout le monde dit je m'en bats les couilles, ça choque personne. Du coup. Et j'ai un tote bag où il écrit je m'en bats avec Lito, c'est des AVC dans le métro, quoi. Tu vois, c'est genre. Et pourtant, c'est ça aussi ce que j'essaye d'expliquer. C'est si le pendant masculin ne te choque pas, pourquoi le pendant féminin te choque? Et c'est un rapport à la vulgarité.
Ouais, c'est bizarre, hein.
C'est, oui, mais parce qu'en tant que femme, je sais pas, j'ai pas. Ah oui, donc ça veut dire qu'en fait, nous n'avons pas le droit à la vulgarité. En fait, nous n'avons pas le droit, pas forcément à la vulgarité, parce que je crois pas au vulgaire. Par contre, on n'a pas le droit au juron. On n'a pas le droit à l'insulte.
En fait, c'est surtout que je crois. Enfin, j'ai l'impression, mais dis-moi si je me trompe, que. En fait, le sexe. Pas le sexe féminin, c'est sale, mais il y a un côté. Les femmes sont pas censées parler de sexe, tu vois. Enfin, il y a un truc un peu caché.
Les femmes sont pas censées parler de sexe, et si elles en parlent, pitié qu'elles parlent de maternité.
Et pourtant, la réalité, entre nous, on le sait. Et tout le monde le sait, les femmes elles parlent beaucoup plus de sexe entre copines que les mecs ils parlent pas de sexe.
En fait, on en parle de façon plus explicite.
C'est ça.
Et on est dans le, on a un art du détail quand même. Hein.
C'est ça. Alors que les mecs sont dans la performance.
Ils sont dans la performance et du coup, ce qu'ils vont communiquer, c'est le nombre de meufs qu'ils ont ken, pendant combien de temps et à quel point elle était bonne.
C'est ça. Mais ils vont jamais une fille de ma petite expérience. Faudrait que vous voyiez sa tête. Mais de ma petite expérience, quand tu apprécies vraiment la fille, tu vas jamais dire quoi que ce soit, en fait.
Oui, tu vas pas dire je les démonte.
Bah, non, mais tu dis rien, en fait. Tu vois, tu veux dire on couche ensemble. Enfin, oui, on est ensemble. Enfin, tu vas même pas dire ça. Tu vas
mais
juste
tu
dire
racontes
on est
pas comment ça se passe, quoi.
Tu dis jamais rien.
Nous, on raconte tout.
Nous, on dit rien. Enfin, moi, j'ai jamais rien dit à qui que ce soit, de rien.
Ah ouais? Mais il y a pas du coup, tu vois, par exemple, tu préviens que tu dis ouais, j'ai un date ce soir avec je sais pas qui. Donc déjà tes potes sont pas au courant que t'as un date?
Si, mais tu vas. La seule question qu'on va te poser, c'est t'as consommé, tu vois. Point.
Ah ouais. Et donc c'est le lendemain.
C'est consommé. Déjà c'est vachement intéressant comme mot.
La consommation. C'est là que je le rajoute pour le tome de consommer. Est-ce que t'as consommé?
T'as consommé. Non. Vous avez consommé. Bah, tu utilises cette. Enfin c'est une expression connue quoi.
Ouais. Non mais je l'ai pas traité celle-là.
Ouais.
Consommer. Alors que nous on sait d'avance qu'on book 2 heures le lendemain, matin, soir, midi, peu importe, pour le débrief.
Bah ouais.
Et c'est un truc réunion au sommet. On est 5, tu vois.
Non, les mecs font pas ça. Les mecs font pas ça.
Alors que ça vous ferait le plus grand des biens.
Sans doute, sans doute. Ça pourrait peut-être calmer les ardeurs.
Ah bah ouais, et puis juste créer un espace d'intimité. Parce que finalement, le seul espace d'intimité réel que vous avez, c'est au lit, quoi.
Et ouais, exactement.
Et de vulnérabilité.
Et en plus, je suis pas certain qu'il y ait beaucoup de mecs qui parlent avec leur partenaire, femme
avant
ou homme,
ou après.
Avant ou après, enfin, tu vois, c'est-à-dire que tu parles pas, en fait, le mec ne parle pas de sexe, en fait, en réalité.
Ça, j'ai une entrée comme ça dans le bouquin, j'ai oublié le nom, mais c'est justement le moment que tu prends pour débrief. Il y a l'aftercare, où c'est vraiment le fait de se dire que tu prends quand même soin de l'autre et il n'y a pas une espèce de réaction répulsive après avoir ken, tu vois. Tu prends encore le temps d'être dans le soin et ça laisse aussi l'espace, du coup, d'en parler. Il y a peut-être plein de trucs que tu n'as pas réussi à dire pendant, mais qui sont que tu envisages plutôt de pouvoir communiquer après. Faut créer ce moment-là, ouais, qui est hyper important.
Parce que je pense que, encore une fois, tu vois, pour revenir sur ton idée, à partir du moment où tu crées le vocabulaire, tu crées l'imaginaire qui va avec et tu crées la possibilité. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vocabulaire,
c'est mort.
La chose n'existe pas.
Ouais.
C'est hyper bizarre parce que je pense que pour les gens qui nous écoutent, c'est un truc auquel on ne pense pas nécessairement beaucoup.
Bah non, parce que tu n'y penses même pas, vu qu'en fait, tu n'as pas les
mots. Parce que
tu n'as
pas les mots pour le penser.
Ouais. Donc tu as l'impression que ton imaginaire ou tes pensées comblent 100% de ce que ça pourrait combler. Et d'ailleurs, heureusement qu'on pense comme ça, parce que je pense que sinon, notre quotidien, moi qui ai pris conscience de ça très tôt, du coup, mon quotidien est dur. Tu vois, quand tu comprends, quand du coup, tu dis, mais non, mais c'est 0,5% en fait. Mais du coup, c'est. Et je pense que ça vient de là aussi, cette démarche. Ça vient d'une frustration de. Moi, les mots me manquaient tout le temps.
Mais d'ailleurs, pour aller dans ton sens et dans un espace qui n'a rien à voir. Les Esquimaux, ils ont, je sais plus, une cinquantaine de mots pour décrire la glace.
Bah oui.
Parce qu'en fait, nous, c'est de la glace, en fait. on n'a pas 50 000 mots pour décrire de la glace. C'est de la glace, c'est de la glace, quoi. Et eux, parce qu'en fait, c'est leur univers, et ben en fait, ils vont avoir plein de terminologies pour définir ce que c'est.
Le rapport à la. C'est ce fameux éventail qui est hyper important et qu'on n'exploite pas assez.
Et alors, tu as parlé d'un certain nombre de mots que tu as inventés. Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont emblématiques, selon toi, qui pourraient parler aux gens qui nous écoutent et se dire « Ah putain, mais c'est vrai, je n'avais jamais pensé à ça.
» Il y en a des tellement hard, en fait. Le retard faussé. Le retard faussé, c'est le moment où on se rend compte, soit par le retour des règles, soit par un test de grossesse négatif, que nous ne sommes pas enceintes, alors qu'on pensait que si. C'est la seule expression du livre que j'ai modifiée après l'avoir formulée. Au départ, j'avais pensé au faux retard. Mais faussé me semblait plus fort, plus juste. Il insiste davantage sur l'idée que ce sont des phénomènes et des facteurs qui nous auraient induits en erreur. Ensuite, on va avoir la masturbation gestationnelle. C'est les séances de masturbation et les besoins d'ocytocine en masse que peuvent ressentir certaines personnes enceintes, qui arrêtent de ken, mais qui pour autant adorent la masturbation. L'éveil du clit, c'est la fois où le vélo, le cheval ou le manège n'ont pas été uniquement un kiff de divertissement.
Ou la douche. Non.
Ou la douche aussi. Sentir son cœur battre dans son sexe. C'est une sensation liée à un état d'excitation sexuelle. On a l'impression qu'il existe un canal qui lie nos pulsations cardiaques à nos lèvres génitales. L'excitation dissociée, c'est le fait de produire des sécrétions vaginales associées à l'excitation en dehors d'un rapport sexuel. La chasse au sang bon, c'est le moment où une odeur de peau, un parfum passe sous ton nez et que tu te transformes en agent de grade 12 au FBI. Tu vois les agents du FBI portés disparus la même et tu te retrouves parfois à suivre un mec sur genre 50 mètres parce que son odeur te rend ouf. L'érection des 10 dernières secondes, c'est l'érection particulièrement dure qui précède quelques secondes avant l'éjaculation d'un pénis. En effet, l'intensité de l'érection s'intensifie considérablement juste avant d'éjaculer. Ce phénomène se remarque bien plus lors des pratiques de sexe oral que lors de la pénétration.
J'apprends des trucs. En fait, ce qui est cool, c'est qu'en plus, j'apprends des trucs parce qu'en fait.
About your dick!
Bah ouais, non, mais en fait, le truc est. Bah, évidemment, je suis pas une femme, donc je me rends même pas compte qu'une femme peut ressentir ce truc. Tu vois, en tant que mec, tu le ressens plus ou moins d'ailleurs.
Ouais, ouais,
et pour une, tu n'as même pas idée que la fille
like,
a pu te le ressentir. Quoi.
We know.
We know.
Les larmes de la descente. C'est quoi les larmes de la descente? Je me revois. Non, les vraies larmes de bonheur. C'est la crise de larmes ou larmes lentes qui coulent sur notre joue au moment de l'orgasme. Pas après, mais pendant, lorsque ces larmes sont simultanées avec son ou sa partenaire. C'est un moment magnifique où l'on ne parle qu'avec les émotions et rien d'autre. L'aphonie orgasmique, c'est le moment lors d'un rapport où l'on prend tellement son pied que plus aucun son ne sort de notre bouche, comme lorsqu'un plat est trop bon et que les 15 convives qui braillent pendant 2 heures avant ne parlent plus. Yelles dégustent, yelles prennent leurs pieds. La marche des jambes trop blottantes. Il m'est arrivé de me lever trop vite et de presque m'écrouler au sol après... À peine après avoir tenté de faire 2 pas, tout est fragile lorsque le clito est gonflé et que mes jambes tremblent encore et qu'on essaye de se rendre jusqu'aux toilettes. La pêche à la capote.
C'est un moment. La pêche à la capote.
Ça, c'est un grand classique. Ça, c'est une margarita. C'est la margarita version pizza.
C'est un classique.
Voilà, bon, ça parfait. Le sursaut de baissage de caleçon correspond à un élan de surprise à la découverte d'un pénis vraiment très très grand. Cette vision donne généralement lieu à un « mais ça va jamais rentrer », pensez ou verbaliser. La gaule surprise. Bah, vas-y, je continue. Franchement, il y a 400 pages de bouquin. Mais
non,
voilà.
on va pas tous se les faire parce que le but, c'est que les gens l'achètent.
C'est mais, gaulerie. Mais c'est, en fait, c'est, je voulais un livre avant tout drôle
ouais,
en et fait, joyeux.
Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est drôle. Et en même temps, tu vois, la manière dont tu l'abordes et la discussion qu'on a, elle est hyper structurée. Et, en fait, c'est assez important. Pas tous les mots sont essentiels, tu vois, nécessairement, mais il y en a beaucoup qui sont importants parce que ça projette un imaginaire et ça permet de mettre des mots dessus. Et en mettant des mots dessus, tu peux parler d'une chose qui n'existe, enfin, tu donnes existence à quelque chose qui n'existe, enfin, qui existe, mais qui n'existe pas parce qu'on n'en parle pas. Et ça, c'est, enfin, il me semble que, enfin, moi, il me semble que c'est essentiel. Donc en ça, bravo. Donc toi, tu dis les followers adorent.
Ouais, en fait c'est intéressant parce que c'est un objet, c'est un livre que j'ai pensé objet avant livre. Donc pour moi il y avait un truc de, faut déjà passer la barrière du tabou du sexe. Et ouais. Donc avec un livre qui s'appelle Les mots du cul, il y avait un taf de direction artistique qui était essentiel dans ce truc, dans ce projet. Et donc j'ai pensé le livre comme un objet. C'est un objet que t'as envie, tu peux le mettre dans tes toilettes, il y a un truc drôle, il y a un truc, ça attire l'œil. Je voulais pas que ça soit le livre de la honte, je voulais que ça soit le livre hyper stylé. Donc il y a d'abord ça, et en fait ce que je comprends là, avec un mois même pas de sortie, c'est un livre qui est lu en couple.
Ah,
en fait, je pensais que c'était un livre qui allait être très personnel.
Ouais, moi aussi.
C'est un livre qui est lu en couple.
D'accord.
Et là encore, j'étais au salon du livre érotique il y a deux jours. 50% des ventes, c'est des mecs qui venaient l'acheter pour leur meuf ou des meufs qui venaient l'acheter à offrir. C'est un livre qu'on offre facilement à sa pote. Et c'est un livre que beaucoup de femmes arrivent à lire en couple avec leur mec. Parce que ça permet de lancer des sujets. D'abord, et il y a un truc un peu de... Bah, tu vois, je suis pas la seule à le dire, elle l'a écrit là.
Je serais curieux d'avoir le retour de quelqu'un de l'Académie française.
Ouais, moi aussi, je serais curieux.
Tu vois, parce qu'en fait, je me dis...
En sueur, je pense.
Je pense qu'il y en a quelques-uns. Je sais pas qui.
Qui saluerait l'audace, peut-être.
Qui saluerait l'audace, mais qui serait intéressé. Je pense que, en fait, c'est marrant parce que tu l'abordes, tu vois, t'as 26 ans, etc. Donc, je pense que tout le monde te prend pas nécessairement très au sérieux. Mais je pense que ça pourrait être abordé de manière très sérieuse.
Ah, mais c'est sérieux.
Et en fait, non, mais ce que je veux dire par là, c'est. Ça serait. Je sais pas qui d'ailleurs, j'ai pas de nom qui me vient comme ça, mais qui l'aborderait parce qu'en fait, cette personne a une stature dans la société, etc.
Oui, je vois très bien.
Ça serait pris de manière très différente.
Une doctoresse de l'académie. Ouais.
Exactement.
Mais il faudrait que je me rapproche de cette personne.
Bah ouais, je sais pas qui, malheureusement.
Ouais, je vais chercher.
Je sais pas qui c'est, mais. Je suis assez convaincu que d'un coup, on le prendrait beaucoup plus au sérieux. Alors, parce que le sujet, il est sérieux, il est important en réalité.
Il est important et puis la démarche littéraire est sérieuse.
Oui, c'est
en fait, quand t'analyses, c'est des mots valises, c'est des cadavres exquis, c'est pas des vannes de la meuf qui fait des punchs sur Insta.
Ouais, non, c'est ça.
J'ai une forme de communication qui est celle-ci. Et moi, j'ai une forme de communication qui est très directe. Et ça passe par la vanne, et ça passe par l'autodérision, et ça passe par tout ça. Mais in fine, en termes d'études linguistiques, grammaticales, il y a une vraie étude grammaticale, quoi.
Ouais. Il n'y a pas l'étymologie, elle est encore un petit peu différente. Parce que l'étymologie, il faudra remonter. Mais comme ces mots n'existaient pas, il n'y a pas d'étymologie techniquement.
Non, il n'y a pas d'étymologie, mais encore, parce qu'en fait, c'est des mots. Qui eux-mêmes associés, tu vois, tu peux même retracer l'étymologie du mot.
D'accord, ok, je comprends ce que tu veux dire.
Tu vois ?
Ouais.
Donc,
ouais.
On peut créer quelque chose.
Je comprends ce que tu dis.
J'ai voulu aussi m'inscrire là-dedans, tu vois, pas compliqué. S'inscrire dans une lignée, dans un narratif et pas marquer le début de quelque chose.
C'est hyper intéressant, je trouve, parce que, en fait, t'amènes une réflexion. Que j'avais pas vraiment eu, tu vois, pour être sincère. Mais c'est normal, parce qu'en fait.
C'est
pas mes sujets. Et puis, même si je suis sensible à tous ces sujets pour le coup, en tant que mec, je pense qu'il y a ça aussi. Hein, nécessairement, c'est des sujets auxquels tu penses pas, puisqu'on est favorisé d'une certaine manière.
Privilégié,
et que, en fait, tu ne les penses pas, puisque t'as pas le problème, quoi, entre guillemets. Donc,
et puis, parce que t'as pas à trouver tout un tas de combines pour exister, rendre visible.
Donc, merci pour ça.
Bah non, mais de rien.
Le podcast s'appelle Vlan, donc on va savoir à quoi tu veux ouvrir et où claquer la porte.
Ouvrir la porte aux personnes curieuses, aux personnes qui sont prêtes à réfléchir autrement. Et à partir des réflexions autrement, créer des process qui peuvent être pérennes. J'ai envie d'ouvrir la porte à ces personnes-là et j'ai envie de fermer la porte. En fait, fondamentalement, je crois que je ne suis pas quelqu'un qui ferme la porte. Donc en fait, je laisse la porte aussi ouverte, juste faut toquer.
Ouais.
Mais je laisse la porte aussi ouverte aux personnes qui pensent encore que le masculin doit l'emporter sur le féminin, aux personnes qui pensent que la langue française n'est pas mouvante. Je laisse quand même la porte ouverte, du moins pas verrouillée, aux personnes qui pensent que la langue et que certaines expressions sont élitistes, nobles et que d'autres ne le sont pas, aux personnes qui pensent en gros qu'il y a la langue d'Aya Nakamura et la langue de Rimbaud, tu vois,
ouais.
Et qui comprennent pas que tout ça est circonstanciel. Et je leur ferme pas la porte, juste photoguer.
Et qu'est-ce que tu penses des gens qui insultent en ligne ? Parce qu'en particulier dans vos sphères...
Oh bah moi, ça m'arrive. Hein.
Non, mais voilà, dans vos sphères, ça arrive beaucoup. Je vois beaucoup de comptes féministes, sexo.
En fait, moi, mon point, c'est toutes les personnes qui m'insultent, pourquoi dans la rue, je les retrouve pas ?
Ouais.
Vous êtes où ? Pourquoi en dédicace, je vous retrouve pas ? De Paris, en passant par Marseille, en passant par Genève, en passant par la Belgique, en passant par la Martinique, en passant par le Canada, en passant par Rouen, vous êtes où ?
Ouais, c'est juste en ligne, quoi.
Bah du coup ça, tu vois,
ouais.
Je m'en fous un peu.
Ok,
tu
clair.
Vois, je suis plutôt c'est des gens qui, si tu les avais en face, oseraient même pas te regarder dans les yeux, donc j'ai envie de te dire bon, ok, cool, ouais. faites un quart de ce qu'on fait avec le danger que ça peut représenter d'intégrité, de, tu vois, de système de valeur, de sécurité. Et puis après, on verra. Et encore une fois, et moi, je m'inscris là-dedans, c'est... Et à chaque fois, on me dit « Oui, mais t'en penses quoi des haters ?» Et je dis « Je n'ai jamais voulu faire l'unanimité. Jamais. »
De toute façon, à partir du moment où tu es lisse, c'est que t'intéresses personne en réalité.
Ouais, moi, lisse, ça, je connais pas. Ça, ça m'intéresse pas. Je comprends, hein, mais c'est pas pour moi. Enfin, je sais pas. En fait, je saurais même pas faire.
Ouais, non, c'est ça. Ouais. Clairement. Clairement. Cool, merci beaucoup, Camille.
Mais merci à toi, Greg.
Merci d'avoir écouté Vlan. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre des étoiles sur vos plateformes de podcast préférées. Vous pouvez aussi partager l'épisode sur vos réseaux sociaux, Instagram Stories, Facebook, LinkedIn, où vous voulez. Je suis Grégory Pouy. Vous pouvez me retrouver sur l'intégralité des plateformes sous le nom Greg From Paris. Si vous avez des idées pour des invités, si vous avez des commentaires, n'hésitez surtout pas à m'envoyer un message. Allez, merci et à bientôt !